Je suis Yann Verline, je suis vice-président de la région Île-de-France à l'écologie, je suis engagé pour l'environnement depuis une trentaine d'années et vous écoutez un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous propose de partir à la rencontre d'un faiseur de solutions. Bienvenue, on est parti pour une demi-heure d'échange avec Jean-Christophe Poulet, qui est maire de Bessancourt. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Yann.
Alors on va parler de ce que tu fais à Bessancourt, et notamment d'un projet que j'ai visité récemment et qui m'a particulièrement plu parce que, je ne vais pas tout révéler là, mais j'ai jamais vu un quartier, alors en l'occurrence c'est un éco-quartier, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais il était vraiment éco-quartier au sens où tu as préservé des choses qui étaient préexistantes sur ce site. Alors je voudrais que, d'abord peut-être, avant d'aller dans ce projet, parce qu'on a une demi-heure, on a un peu de temps, est-ce que tu peux d'abord te présenter personnellement, qui tu es, et puis décrire un peu Bessancourt, cette commune, où elle est, comment elle se situe, voilà. Et puis tu es devenu maire quand, voilà. Raconte-nous un peu ta vie. Voilà.
Oui, donc moi je suis maire depuis 2001, je suis d'ailleurs le premier maire vert d'Île-de-France, puisque Michel Bourguin c'était au second tour, moi c'était au premier tour. Et donc voilà, et donc Bessancourt c'est une ville qui faisait 6000 habitants, 8800 habitants maintenant, donc il y a une grosse progression de population, avec 60% d'espace naturel, le projet de forêt de Maubuisson, une ville qui ne s'aimait pas, on va dire, puisqu'elle n'aimait pas son quartier qui était très remuant. D'ailleurs, son quartier était plus connu, les Pensées-Mallets, était plus connu que la ville elle-même. Moi, j'étais enseignant dans le Val-d'Oise avant d'habiter à Bessancourt. Donc, on connaissait le quartier, on ne savait pas que c'était à Bessancourt, voilà, parce qu'il y avait une réputation. C'était aussi une ville qui avait subi l'interdiction du maraîchage du fait de la pollution de la plaine aux métaux lourds de Paris, enfin des déchets de Paris. Il y avait donc, voilà, et puis il y avait la base de Tavernier aussi sur place, le centre de commandement nucléaire. Enfin, tout ça faisait un melting pot où la ville, finalement, qui est une ville agréable, mais ne s'appréciait pas, enfin s'auto-dépréciait beaucoup. Voilà, donc nous, l'idée, c'était d'avoir des idées sur l'écologie pour redonner, pour remettre en valeur cette ville qui est dans un coteau forestier, qui a des grands arbres, qui a des gros atouts, hein, voilà, rénover son patrimoine. Et donc on a monté un agenda 21 assez rapidement calqué sur le plan local d'urbanisme en étant aidé par l'ADEME, on était les premiers à faire ça, voilà, pour faire un PADD, donc un plan d'aménagement vraiment très politique, très écologiste, sur lequel on est encore, voilà, qui est encore notre courroie de transmission avec les habitants.
Et toi, tu es maire depuis combien de temps?
Depuis 2001.
2001, voilà. Donc ça commence à faire. Mais c'est vrai que c'est sur la durée aussi qu'on fait les choses. Et un mandat, c'est souvent court. C'est bien d'en faire quelques-uns. Je voudrais maintenant qu'on parle de ce quartier. Donc, il y avait quoi avant là? C'était quoi avant que ça devienne un quartier d'habitation avec pas mal d'autres choses que des habitations? Tu vas nous le décrire. C'était quoi avant,
au début? Alors, il y a administrativement et naturellement. Administrativement, c'est ce qu'on appelait au schéma directeur d'Île-de-France, une zone pyjama. Donc en fait, il y avait, parce qu'elle était rayée, rayée sur les plans d'urbanisme, voilà. Donc on appelait ça, c'était pas beau, une zone pyjama avec l'État et la région. Bon. Et on devait urbaniser 110 hectares à Bessancourt. Et on trouvait dommage d'urbaniser toute cette surface-là parce que c'était des hectares qui n'étaient pas pollués aux métaux lourds, justement, et qui pouvaient encore accueillir du maraîchage. Donc on a négocié, sur les 110 hectares, d'en urbaniser que 30 hectares. Et ces 30 hectares, donc, c'est l'écoquartier. Sur ces 30 hectares, c'était des jardins familiaux, il y avait aussi des gens du voyage qui étaient implantés là, en sédentaire. Il y avait donc également, et puis donc il y avait un côté, on avait l'impression que ça faisait déjà partie du coteau forestier parce qu'il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de grands arbres, mais en fait c'est parce que c'était des grands arbres, c'était pas vraiment une forêt quoi, il y avait des grands arbres et donc il y avait 80 sujets qui disaient qu'on avait l'impression que c'était, quand on venait de loin, côté plaine de Bessancourt, on avait l'impression que c'était une forêt, mais c'était pas une forêt en fait. Hein. Voilà, il y avait, après il y avait un grand mitage d'espace naturel. Donc, bon, mais c'est quand même un atout.
Pardon, c'est des arbres qui étaient là
depuis toujours. Il y avait des chênes, des noyers. Oui, bien sûr, c'était des très, très vieux sujets.
Ils ont poussé naturellement.
Voilà. Ouais. Donc, il y avait 80 très beaux sujets. Après, bon, il y avait des bouleaux, des peupliers, mais ça, c'était un peu anecdotique. Et il y avait des futaies aussi et des assemblements d'arbres plus récents, mais qui étaient très jolis aussi, qui participaient à cette diversité. En 2006, quand on a monté le dossier de ZAC, de zone d'aménagement concertée, et qu'on a cherché un aménageur, donc il y en a plusieurs en compétition, mais notamment FTRP, maintenant Grand Paris Aménagement, nous on leur a dit on veut conserver les arbres existants. Mais dès le départ, on a été un peu pris de haut à l'époque en disant on va d'abord faire une étude forestière. Bon. Donc ils ont financé une étude forestière, donc nous on a choisi les forestiers qu'on souhaitait. Et donc il y a eu une étude forestière entre 2008 et 2009. Et cette étude forestière, au départ...
Pourquoi une étude forestière?
Parce qu'en fait, l'AFTRP disait, regardez, il y a du lierre partout autour des troncs, ils n'ont pas été entretenus, c'est des arbres qui vont mourir, qui sont morts...
Ah, une étude forestière dans le sens, on va vérifier que ces arbres sont en bonne santé. Voilà. Sous-entendu, on va les enlever, quoi. Voilà.
Oui, ça s'appelle exactement une étude sanitaire, mais par des forestiers. Voilà. Et donc, en fait, au départ, en effet, il y a le diagnostic qui n'était pas très bon, c'est qu'il y avait eu beaucoup de lierre et tout, mais des arbres, ça se délierre, enfin, ça, c'est pas hyper compliqué. Bon, voilà. Donc, on a fait délierrer les arbres. Il y a les bouleaux qu'on a retirés parce qu'ils étaient près des voies de chemin de fer et c'était une demande de la SNCF, de toute façon, qu'on les enlève. Donc, on les a remplacés par une haie d'arbres fruitiers par la suite. Et puis, on a conservé les arbres. Et alors, ce qui était très marrant ensuite, c'est qu'on a pensé le plan d'aménagement en fonction des arbres, en fait.
C'est génial, ça. Voilà. C'est ça que je trouvais extraordinaire, parce que c'est vrai que quand on voit classiquement une zone d'aménagement, comme on dit ZAC, une zone d'aménagement concertée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le terme qu'on utilise quand on a un projet de création d'un quartier nouveau, là où il n'y avait rien, où c'était une friche, où il n'y avait pas grand-chose. Donc, d'habitude, quand c'est comme ça, on prend une carte sur une table, on dessine l'endroit où ça va se faire, et on part du principe, enfin les aménageurs partent du principe qu'il n'y a rien. S'il n'y a jamais quelque chose, on l'enlève. Et notamment des arbres. Ça, c'est vraiment la quantité négligeable. Et toi, tu as décidé que les arbres, ce n'était pas une quantité négligeable. C'est original, on va dire.
Et au moment des choix des promoteurs, donc avec Grand Paris Aménagement, on nous a quand même dit que ça avait l'air très compliqué, qu'on avait beaucoup de contraintes, parce qu'on avait plusieurs contraintes à Bessancourt. Un, on ne voulait pas de PVC dans la deuxième tranche.
PVC, ça veut dire ?
Ben en fait, on ne voulait pas de fenêtres en plastique. Quoi, en fait.
Ah oui, voilà. Pardon, la matière PVC.
Ouais. On voulait que le talvec soit respecté, c'est-à-dire en fait l'écoulement d'eau qui venait des coteaux. Et donc on voulait un étang pour recueillir cette eau-là, pas un bassin de rétention, un étang, voilà. Et on voulait des bassins secs, qu'on appelle des bassins secs, hein, qui permettent d'accueillir l'eau de pluie, notamment en cas d'orage et tout, des bâtiments, pour avoir des espaces verts. Et donc le long de ces espaces verts, on a dit il faut planter des arbres. Donc on a l'écoquartier s'est vu planter 380 arbres en plus de ceux qu'on a préservés. Donc on a planté beaucoup d'arbres. Et donc il y avait des contraintes comme ça. Et donc on s'est fait convoquer en 2014, je pourrais très bien, à Gare de Lyon, là où était à l'époque le siège de Grand Paris Aménagement. Et donc il y avait tous les promoteurs qui étaient autour. Donc il y avait une quinzaine de promoteurs sur la première tranche. Et donc les gens de Grand Paris Aménagement, et essayer de convaincre que l'addition des contraintes rendait le projet économiquement intenable, impossible. En plus, on ne voulait pas aller au-delà de 4 étages parce qu'on voulait pouvoir avoir vue sur la forêt des coteaux. Enfin bon, on avait mis plein de contraintes. Voilà. Et au final, on n'a rien assoupli. Alors, on a réparé la Réunion, donc on a dit, bon, pour le PVC, je suis d'accord, mais comment fait Berlin? Comment font d'autres villes pour construire? Parce qu'il y a déjà ces limitations-là. Et pour les arbres existants, on leur a dit qu'il y avait quand même suffisamment de surface aux 30 hectares pour pouvoir se débrouiller. Et qu'évidemment, s'ils nous donnaient du prêt à mâcher architectural, ça passait pas. Par contre, s'ils réfléchissaient architecturalement, ça pouvait être très chouette. Voilà. Et là où la mairie a été mise à l'épreuve, c'est que moi, je voulais que l'école sorte vite, parce que je pense que ça donne vite vie au quartier. Et donc, je la voulais au milieu du quartier. Et donc, la parcelle qu'on a identifiée...
C'est pas l'église au milieu du village, c'est l'école au milieu du village.
Voilà, exactement. Okay. Mais il y avait plein d'arbres. Bon. Et donc, du coup, on a nous-mêmes dû réfléchir avec l'architecte qu'on a choisi. En plus, c'est une école à énergie passive, etc. Et tout. Mais on a réfléchi à une école, en fait, qui entoure les arbres. En fait, la cour de récréation, il y a les arbres au milieu de la cour de récréation. Et l'école entoure les arbres. Donc, c'était quand même symboliquement assez intéressant.
Alors, ça me fait rire parce que nous, aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle îlot de fraîcheur, qui consiste à aider les communes à revégétaliser les cours d'école parce qu'elles sont trop minérales. Et toi, tu n'as pas perdu de temps.
Non,
voilà. Tu as directement laissé l'arbre qui était déjà là et tu as construit l'école autour.
Voilà. Et on a repensé à un parvis, parce qu'un parvis, l'architecte avec qui on travaillait était très très bien, mais pour les aménageurs, un parvis, c'est forcément une dalle. Et les dalles qui s'abîment aussi, au bout d'un moment, là, qui sont... Bref, c'était une dalle. Et je me dis, bah, non, on va garder les arbres sur le parvis aussi, et on va faire une petite dalle d'accès, voilà, mais suffisante pour les gens, etc. Et tout. Mais par contre, ils arrivent dans un petit bois, quoi. C'est ça que, voilà. Bon, et comme on a d'abord livré les logements sociaux, c'était beaucoup des gens qui venaient des logements sociaux et tout, il y a un effet de surprise d'arriver dans ce type d'environnement, voilà. Et donc, c'est ça un peu qu'on recherchait, c'était aussi l'effet de surprise, parce qu'on pensait que ça, c'est comme ça qu'on pouvait adhérer à la pensée du quartier, à la pensée écologique du quartier. Voilà. Mmh. Mais ça a été un peu une bagarre avec les promoteurs, mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'ils ont... Bon, au final, ils ont joué le jeu, vous n'avez pas trop le choix, mais ils ont quand même joué le jeu. Ils ont choisi des architectes qui étaient plutôt marrants, enfin, qui ont réfléchi les choses avec nous. On a eu beaucoup de fou rire. Par contre, on a eu beaucoup de... Ça crée de la convivialité quand on parle de nature. C'est marrant parce qu'au début, on s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord. Parce que, voilà, merde, garder des arbres, c'est pas possible. Puis après, ça nous fait plutôt rire entre nous parce que du coup, ils nous expliquent sur leur plan comment ils ont travaillé ça. Puis donc voilà, donc ça crée de la convivialité. Par contre, là, on a été très dur. C'est que les forestiers qui ont fait l'étude, on les a conservés avec nous pour qu'ils surveillent la protection des arbres. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de mettre quelques planches autour du tronc. Il faut surveiller les racines avec les pelleteuses qui passent et tout. Et donc, on avait fait des circonférences en fonction des arbres. C'est un noyer, un chêne, un frêne, pour préserver les racines, pour être sûr qu'il n'y ait pas une mauvaise manip. Et comme par hasard, l'arbre tombe, ce n'est pas notre faute, l'arbre est tombé, voilà. Quoi. Après, l'autre point qui était intéressant, c'est qu'il a fallu travailler avec les habitants par la suite. Parce que les gens pensent que comme il y a un grand sujet devant eux, quand il va y avoir du vent, ça va tomber dessus, quoi. Et donc, c'est dangereux pour eux. Alors, j'aurais dit, bon, ça peut s'expliquer avec les peupliers qu'on peut dracine, ça peut s'expliquer avec les bouleaux aussi, qui sont parfois plantés sur des terres pas très nobles. Enfin, c'est des grands arbres, non, il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison que ça nous tombe dessus, etc. Et tout. Donc, il a fallu aussi rassurer...
Pas davantage que sur un boulevard haussmannien, exactement, où il y a des platanes gigantesques.
Exactement. Donc, il a fallu aussi travailler un peu avec les habitants par rapport à ça. Et donc, le Covid est passé par là. Donc, le quartier, si tu veux, il a commencé vraiment en 2016. Bon, il a poussé assez rapidement. Il y a eu la phase Covid. Et après la phase Covid, les promoteurs, ce n'est pas comme les politiques, ils peuvent revenir assez facilement sur leurs paroles, parce que, bon, c'est pragmatique, quoi. Et donc, les mêmes qui avaient fait...
T'as dit quoi, que c'est les promoteurs peuvent faire plus que les politiques?
Ben oui, parce que nous, quand on est pris dans des sujets, parfois, on a du mal à dire, on s'est trompé. Bon, les promoteurs, ils s'en fichent, eux, ils vendent un produit. Bon. Et donc, eux, ils nous ont dit, on s'est trompé. Voilà. On s'est trompé, en effet, on pensait que vos exigences, espace extérieur, balcon pour tout le monde, terrasse, arbre, voilà, ça allait être une catastrophe. Et ben non, c'est plutôt une réussite économique, parce qu'après le Covid, qu'est-ce qu'on cherchait les gens? Des espaces extérieurs, des arbres, des parcs, de l'ombrage. Ouais. Voilà, et donc du coup, ça a plutôt boosté les ventes. Ouais. Et moi, un des compliments les plus beaux qu'on m'ait fait, c'est des gens qui sont arrivés dans le logement social, famille subsaharienne qui venait de Gennevilliers, voilà, et qui m'ont dit, tu sais, on a l'impression qu'on a loué à Airbnb. Voilà, et ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu ça. Ouais. Ils me disent, parce que c'est la nature, c'est marrant, on a l'impression qu'on n'est pas en logement social, qu'on est dans un Airbnb, qu'on est parti faire un petit tour en vacances en Normandie, quoi. Voilà, et ça m'a fait plaisir parce que je me dis, bon, c'est que le pari est réussi.
Et ce qui est nouveau, c'est que d'habitude, quand on a un logement et qu'on a pas loin de chez soi, enfin devant chez soi, parce que là c'est devant la fenêtre, on a un arbre magnifique qui a déjà, qui peut être centenaire, voire plusieurs fois centenaire. En général, on est dans un vieux bâtiment, parce que justement, pour que l'arbre ait le temps de devenir grand, le bâtiment, il est vieux lui aussi. Là, on est dans un bâtiment complètement neuf, on est dans un univers complètement neuf, et on n'a pas, comme souvent dans les bâtiments neufs, des petits arbres un peu chétifs qui viennent d'être plantés en même temps que la maison a été construite. Là, on a tout de suite un beau sujet. Donc, on allie le moderne et... J'allais dire l'ancien qui est l'arbre lui-même, qui est ancien et qui est vieux et qui est majestueux.
Oui, mais par exemple, bah oui, exactement. Et puis donc du coup, ça crée comme un effet d'étrangeté temporelle. Par exemple, on a un étang qui est un étang artificiel au final. Bon, maintenant, il y a des canards, il y a tout. Enfin, bon, c'est un étang artificiel. Bon. Et c'était déjà une zone humide, mais c'est un étang artificiel. Il n'y a pas d'étang à cet endroit-là. Mais il y a un grand noyer à côté, un très grand noyer à côté. Et les gens me disent parfois, c'est bien d'avoir préservé l'étang. Et je leur dis, non, parce qu'en fait, c'est un effet d'optique, parce que vous obsédez par l'eau, l'étang. L'eau, ça attire toujours. Mais en fait, c'est le noyer qui était là. L'étang n'était pas là, c'est artificiel. Donc, du coup, ça crée des décalages temporels, et je trouve ça marrant. Et puis, ça raconte une histoire aussi du quartier, quoi, en fait. Ça raconte une histoire du quartier.
Et on l'a un peu dit, mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Le fait que dans un quartier comme ça, qui, comme tous les quartiers en Ile-de-France, est sujet maintenant à des canicules à répétition, tu as un espace où, grâce aux grands arbres, tu as un cadre de vie qui est de... T'as de la fraîcheur, tu as beaucoup plus de fraîcheur avec ces grands arbres que si tu ne les avais pas.
Ouais, exactement, il y a plus de fraîcheur. Alors, moi, je pense qu'il y a deux, grâce à deux contraintes, donc maintenir les grands arbres et aussi la gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Parce que du coup, ça générait beaucoup d'espace vert pour justement accueillir cette eau. Et donc, du coup, ça a incité à planter des arbres. Voilà, donc, plus de 300 arbres, hein, donc on a planté beaucoup. Voilà. On a plutôt planté des sujets moyens pour que ça pousse un peu vite. Et donc, ça donne aussi le côté un peu... D'ailleurs, les gens pensent qu'il y avait beaucoup plus d'arbres que ça avant que l'écoquartier naisse, alors que non, il y en avait moins, finalement, avant l'écoquartier. Mais il y avait des grands sujets qu'on a préservés. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, du coup, je pense que ces deux, le fait d'avoir tenu sur ces deux contraintes crée ces îlots de fraîcheur et cette ambiance forestière. Voilà. Et ça m'avait marqué parce que quand j'avais été... On est jumelé avec une ville au Bénin qui s'appelle Zé, au Bénin. Et une ville de brousse, alors, ils n'ont pas de problème d'arbres, ils ont des arbres partout. Mais malgré tout, ils ont eu un modèle économique parfois de se dire que les arbres c'était un problème pour construire. Quoi. Donc voilà, on produit parfois les mêmes arbres
nous.
Partout.
Exactement. Nous. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. Et toujours voilà, encore voilà, d'ailleurs. Voilà.
Mais ils avaient visité une zone d'activité économique qu'ils étaient en train de créer. Et alors il y avait, au milieu de la zone d'activité économique, mais de façon non rationnelle, il y a un bosquet. Mais un grand, mais enfin il y a un bois. Quoi. Tout s'organise autour et c'est compliqué pour les transports parce que même il y a une ligne de train qui est déroutée. Bon. Et j'ai dit quand même, putain, vous êtes super écolo quand même d'avoir regardé ce bois au milieu, etc. et tout, c'est exemplaire, etc. et tout. Et ils m'ont dit, ben non, c'est que c'est une forêt sacrée en fait. C'est une forêt sacrée, c'est dans la tradition vaudou, il y a des forêts qu'on ne peut pas toucher, donc c'est une forêt sacrée, etc. et tout. Et donc j'ai trouvé ça assez marrant. Donc quand j'étais revenu à Bessancourt, j'avais dit, quand j'étais, c'était au moment où j'argumentais avec les promoteurs, j'ai dit, non, vous savez, nous, c'est sacré. C'est
sacré. Tu les as pas tournés, tu les as pas baladés trop longtemps, j'imagine, ils t'ont pas cru.
Non, mais ça fait partie de la convivialité de la discussion, je pense qu'il faut, c'est un peu... Voilà. Bon, après, évidemment, ils connaissent leur métier, ils connaissent l'économie, etc. et tout, mais bon, quand même, sur les... ça coûte... pour un écolo de construire sur des terres agricoles qu'en fait ça coûte, donc il faut que ça compte, enfin, il faut que ça soit pour de vrai, quoi. Il faut que ça soit des belles constructions dont on soit fier, il faut une école énergie passive, il faut maintenir des arbres, il faut donner un cadre parce que voilà, parce que ça nous coûte et donc il faut que ça compte à la fin, quoi. Voilà.
Et peut-être aborder la question du coût, est-ce qu'il y a eu un surcoût?
Alors, ce que dit l'aménageur, oui, il dit qu'il y a eu un surcoût, notamment sur l'aménagement des bassins secs, voilà, etc. Il n'y a pas eu de surcoût au maintien des arbres. Ils n'ont pas pu faire du prêt à mâcher à construire. Ça, c'est sûr qu'ils ont dû inventer des trucs pour construire. Mais ça n'a pas été un surcoût, parce que, bon, je passe sur le logement social, où là, bon, le prix est défini entre le promoteur et le bailleur. Mais surtout, ce qui est propriété privée, les prix ont plutôt explosé à Bessancourt avec l'écoquartier, et notamment parce qu'il y avait des espaces naturels, parce qu'il y avait des balcons pour tout le monde, etc. Et tout. Donc, au final, sans les promoteurs ont eu l'honnêteté de nous le dire. C'était quand même une bonne opération. Dans une période où on a traversé des crises immobilières, où c'était pas simple, voilà, donc... Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de surcoût. En fait.
Au final, il n'y a pas eu de surcoût. Non. Et je me pose la question là, de ces promoteurs là, dont on a parlé, qui sont des gens qui ont des habitudes, qui ont des routines. Et donc, quand ils sont arrivés face à toi, tu as bousculé ces routines et leurs habitudes. Est-ce que, comme tu l'as précisé, bon gré, mal gré, après coup, ils ont, tu dis, vu le côté positif d'avoir gardé ces arbres.
Oui.
Est-ce qu'ils en ont fait, de ce que tu en sais, j'imagine que ce n'est pas si facile de le savoir, mais est-ce que tu sais si ces mêmes promoteurs qui continuent d'agir un peu partout en Ile-de-France et certainement au-delà de l'Ile-de-France, est-ce que ce sont des promoteurs qui aujourd'hui ont envie de reproduire ça ailleurs ou conseillent des maires en leur disant, vous savez, nous, à Bessancourt, on a fait comme ça, pourquoi pas, vous avez des arbres, gardez-les. Enfin voilà, tu crois que tu as fait des petits? Voilà.
Bah, j'espère, j'en suis pas certain. En tout cas, dans toutes les plaquettes publicitaires sur leur vente de logement, il y a toujours un arbre, un grand arbre. Donc ça veut dire quand même.
Maintenant, après coup, tu crois?
Ouais. Ah, enfin, ouais. En tout cas, sur Bessancourt.
Ah,
après,
oui.
Ailleurs, je sais pas. Mais enfin, on regarde bien, on voit souvent des arbres quand même. Voilà. Donc je pense que, alors je ne sais pas, c'est pas du fait d'abaisser en cours, mais je pense qu'il y a une prise en compte. J'ai reçu la directrice générale de Next City récemment, là, qui a sorti un bouquin, un plaidoyer sur la densification, hein, plutôt que l'étalement urbain, et bon, qui explique par contre la condition de la densification, c'est en effet ce qu'on a fait à Bessancourt, c'est le maintien d'arbres, voilà, d'espaces naturels, et d'animaux, parce que aussi dans l'écoquartier, il y a des animaux, il y a, donc on a une zone de pâturage, on a un poulailler partagé, enfin voilà, et donc je pense que ça fait partie aussi de l'âme, du supplément d'âme des quartiers, quoi, voilà. Et pas des quartiers complètement minérales où il y a finalement il n'y a pas cette arbre, il n'y a pas des arbres qui accrochent le regard, il n'y a pas des animaux qui attirent les enfants. Enfin, voilà, il faut qu'on arrive. Mais il ne faut pas que ça soit factice, il faut que ça soit pensé avec les habitants, il faut que ça devienne naturel, quoi, en fait.
Oui, et puis voilà. De ce que j'avais vu, les professionnels qui font de la renaturation, je sais que ta mare, notamment, tu as une petite mare. Oui. T'as rien fait de particulier, mais il y a des grenouilles maintenant.
Oui, il y a des grenouilles.
Elles font d'ailleurs pas mal de bruit.
Oui, ça c'est marrant. Mais d'ailleurs, la première fois qu'on est venu, une dame était venue à ma permanence, une habitante d'écoquartier, en me disant, oui, des grenouilles, c'est insupportable, ça nous empêche de dormir, c'est le mois de juillet, il fait chaud, etc. Et tout. On a les fenêtres ouvertes et des grenouilles font un bruit pas possible. Et moi, j'ai vu quelle bonne nouvelle. Il y a des grenouilles, parce que dans mon équipe, vous savez, il y a plus écologistes que moi. Moi, je voulais aller chercher des grenouilles dans un autre étang pour les mettre là. On m'a dit surtout pas, c'est une aberration écologique. Ils vont venir avec les oiseaux, les grenouilles. Moi, je crois pas aux cigognes, mais bon. Et donc, du coup, avec les bébés et tout, bon. Mais donc, du coup, voilà. Et là, le fait qu'il y ait des grenouilles et tout, c'est vraiment, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Donc,
elles sont venues toutes seules.
Elles sont venues toutes seules. Ouais. Et je lui dis, c'est quand même le supplément d'âme. C'est comme les gens qui disent, qui râlent après les cloches de l'église quand ils habitent au centre-ville.
Ou des coqs.
Ou des coqs, voilà. Il y a un supplément d'âme, quand même. Il y a un truc qui se passe. On n'est pas n'importe où, quoi. Voilà. On est à Bessancourt et c'est chouette. Pour revenir à ta question sur les promoteurs, je sais pas si ça fait école, mais par contre. Moi, j'ai senti souvent une certaine fierté des architectes et des promoteurs d'avoir réussi le coup. Et notamment pendant les inaugurations, ils étaient contents qu'on y soit arrivé, quoi. Voilà. Et ça, c'est assez touchant parce que finalement, je me souviens d'un promoteur, bon, je vais le citer, il s'appelle Promogym, qui était le plus réticent, enfin, qui râlait plus, qui a le plus râlé à la réunion qu'on avait fait près de la gare de Lyon, à GPA, qui m'avait dit que c'était impossible. En plus, il y avait deux noyers sur sa parcelle, enfin, un truc pas possible. Voilà. Donc, ils vont couper un des deux. Mais je me suis dit, non, on va couper un des deux, vous allez garder les deux. Puis, voilà. Et il a fait quelque chose d'exemplaire. Y compris, il a beaucoup planté lui-même. Parce que pour refaire un alignement qui est noyé, il a planté. Et il a fait vraiment un travail exemplaire, quoi. Et il en était très content à la fin. Alors c'était celui qui avait le plus râlé, qui m'avait dit c'est impossible, c'est une aberration économique, etc. Et tout, voilà. Il a tout vendu comme des petits pains. C'est peut-être la résidence la plus réussie. Et donc il est très heureux à la fin, très heureux de me dire bah, c'était vachement bien en fait. Voilà.
Bah, c'est un peu ça que moi je voulais qu'on mette en avant, c'est le côté, à un moment donné, on insiste, on tient bon. Alors évidemment, il faut que ça marche à la fin. Parce que si c'est un échec, évidemment. Mais là, ça marche. Et, oui. Et c'est l'intuition que tu as eue. Enfin, moi, je la partage complètement avec toi. C'est qu'on a besoin de ces grands arbres qui sont vieux pour nos villes. Parce que nos villes, il faut les densifier. Ça, je ne conteste pas du tout ça. Mais par contre, effectivement, comme tu l'as dit, ou la présidente de la direction de Next City, si la condition de la densification, c'est d'avoir du végétal quasiment plus présent encore qu'ailleurs. Et les grands arbres. Oui. Ils remplissent un rôle qui est... Enfin, les vieux arbres, parce que pour être grand, il faut être vieux, en tout cas quand on est un arbre. Et c'est essentiel de les garder. Donc, c'est ce que tu as fait et c'est génial. Alors, maintenant, on est presque à la fin de ce podcast, mais tu as d'autres projets sur Bessancourt?
Oui,
attends, parce que là, ça y est, c'est fait. Enfin, tu m'as dit c'est 2026, la toute fin
de l'aménagement. On fait la même opération sur le quartier HLM des Brosses-et-Malais, qui est un quartier qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup les habitants qui ont tenu leur quartier plus que le bailleur, d'ailleurs. Et on fait un réaménagement avec le bailleur du quartier. Donc, on détruit d'anciennes maisons, on reconstruit du logement, mais selon les mêmes critères que l'éco-quartier. C'est-à-dire qu'on essaie de préserver au maximum les arbres, voilà. On essaie parce qu'avec le bailleur, c'est un peu plus compliqué parce que les propriétaires de tout, donc on a des problèmes de négociation, mais enfin, on arrive quand même à préserver les arbres, en tout cas sur les parties communales, c'est sûr et certain. On crée aussi un étang, en fait, on essaie de reproduire quelque chose, voilà, d'un art de vivre qui existe dans l'écoquartier. Voilà. C'est pas parce qu'il y a une phrase que me disait souvent ma grand-mère, le destin des pauvres n'est pas fait de miettes. Et donc je pense que quand on est en quartier logement social, il faut être encore deux fois plus exemplaire et sur le plan d'écologie, etc. et tout. Sur les animaux, sur la place de la nature, etc. et tout, parce qu'ils en ont besoin. Et sur le centre-bourg, on est sur des opérations de désartificialisation. Donc en fait, On a transformé un parking en mini-marbre également. Comment dire, on a replanté des arbres, on a recréé un parc. Et on montre aux gens que avant, quand on était chez les écolos, tu te rappelles, on avait un slogan, on disait quand on met une plaque de béton, ça ne reviendra jamais en arrière, il n'y aura jamais de la nature ensuite. Bah si, c'est possible.
Si, si.
Il suffit d'enlever la plaque de béton.
Donc, casser la dalle.
Les sols sont très compactés, donc il faut remanier les sols, etc. Et tout. Mais on peut désartificialiser.
Et pour le dire, parce que tu ne le dis pas, mais pour avoir vu ce que tu as fait sur le centre de Bessancourt, tu as, avec cette végétalisation, avec ce réaménagement, tu as mis en valeur de manière extraordinaire ton église.
Exactement,
voilà, c'est magnifique. Le patrimoine est sublimé avec ce genre d'aménagement.
Exactement, et c'est bien mieux que d'avoir un parking au pied de l'église, quoi. Et d'ailleurs, on voit bien dans tous les grands monuments, les grandes capitales, y compris à Paris. Quand on regarde Notre-Dame de Paris, à une époque, ils sont entourés de voitures. Maintenant, c'est voilà. Donc en fait, il faut créer. Le patrimoine naturel va de pair avec le patrimoine historique.
Oui, absolument. Ben écoute, merci beaucoup Jean-Christophe pour nous avoir fait part de ça.
Merci. Moi, merci pour cette belle initiative.
J'invite à ceux qui ont entendu ce podcast à se rendre à Bessancourt.
Exactement, mais qui nous contactent. Voilà. On fait beaucoup visiter l'éco-quartier, nous. Hein.
Faire visiter l'éco-quartier, découvrir cette magnifique église aussi, parce que moi j'aime beaucoup ce patrimoine. Mais bon, en tout cas, voilà, allez découvrir ce que c'est, surtout si vous êtes un promoteur ou un maire qui a un projet d'aménagement. Garder les vieux arbres, c'est possible. À Bessancourt, on en a l'exemple. Et voilà, merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup pour l'accueil.